À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le département du Loiret consacre une exposition photo à celle de son territoire. Cette année, pour la 6e édition, découvrez des Loiretaines engagées. Toutes ont des parcours singuliers et se mobilisent pour faire avancer des causes auxquelles elles croient.
Danielle Bouchoul. J'ai adhéré tout de suite au planning familial. J'ai été membre du conseil d'administration du planning familial entre 2006 et 2012. Date 2006, c'est la date de mon départ en retraite parce que j'étais professeure en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Et tout de suite, en prenant ma retraite, j'ai voulu que mon temps devienne du temps de bénévole associatif. Et puis, elles aussi, Loiret, j'ai adhéré en 1998 et je suis devenue la responsable de l'antenne dans le début des années 2000, je crois que c'était 2002 ou 2004. Puis depuis 2010, je suis membre du bureau national et entre 2017 et novembre 2023, donc tout récemment, j'étais l'une des deux coprésidentes nationales. Mais maintenant, je ne suis plus que vice-présidente nationale et je vais avoir plus de temps à consacrer à Orléans. Le fil directeur, c'est quand même défendre d'un point de vue théorique l'égalité femmes-hommes. Parce que j'ai très vite senti le sexisme dans la société, dans ma vie professionnelle. Non pas parce que j'ai été brimée. J'étais une prof agrégée jeune, donc déjà on m'a toisée. Ensuite, j'étais une femme qui enseignait la physique, ça ne se fait pas, on enseigne les lettres, mais pas la physique. Et enfin, troisièmement, j'étais une femme jeune qui avait deux enfants et qui avait le toupet d'enseigner en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Ça, c'était cool. Quand j'avais 25-30 ans. Les choses ont beaucoup évolué. Mais j'ai pris ça alors que moi, a priori, je n'avais pas une fibre militante féministe. J'ai pris ça parfois de façon très désagréable. Il fallait que je prouve, que je dise, mais je suis agrégée, mais j'ai fait normal sup. Donc à ce moment-là, tout le monde s'arrêtait. Et mon engagement féministe vient probablement de ces premières expériences professionnelles. En conclusion, que tant que je suis en forme à peu près intellectuellement et physiquement, je veux bien donner de mon temps pour faire avancer l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines. Donc actuellement, tout particulièrement, je m'occupe de la citoyenneté des femmes, mais je ne délaisse pas. Et je suis très, très sensible à l'égalité professionnelle et à la lutte contre tous les stéréotypes. D'accord.
Hélène Cafès, la musique avant tout.
Il y a 25 ans, aujourd'hui, bientôt, les contrats de pays proposent des possibilités pour des projets innovants. Alors moi, tout de suite, la musique, bien entendu. Donc je dis à monsieur le maire, j'étais à l'époque au conseil municipal de mon petit village, là, de Saint-Péravy. Que pensez-vous d'un orgue dans l'église? On pourrait créer une école d'orgue, etc. Alors bon, tout le monde s'interroge, on n'était pas d'accord, hein, bien entendu, c'est normal. 700 habitants, un orgue, pourquoi faire? M'a-t-on dit, ben, j'ai dit pour l'enseignement, pour la découverte de la musique. Et finalement, ben, le projet a été tellement bien ficelé, je pense, voilà. Avec l'aide de Catherine Mounier qui est au conservatoire, on a fait le budget et tout, bien présenté, et lorsqu'il a été accepté, tout le monde a été d'accord. Finalement, ça n'a rien coûté presque à la commune, 1 euro par habitant, et l'école d'orgue fonctionne depuis 2001. Très engagée dans tout, avec beaucoup de passion, disons,
oui,
de passion, d'amour, disons, pour les autres d'abord. Oui, et puis j'aime bien partager. Et je trouve aussi que ce travail de transmission est important.
Bonjour, je m'appelle Marina Sadani, présidente de l'association Des Rêves pour Yanis. Je suis mariée et j'ai deux enfants, Inès et Yanis. Alors, l'association a été créée il y a 6 ans maintenant, au mois de mars, ça fera 6 ans. Donc Yanis est en situation de handicap, il est polyhandicapé. Nous avons réalisé beaucoup de thérapies de rééducation pour Yanis. Yanis, son pronostic vital puis son pronostic de développement était très défavorable. Il a une malformation au cervelet, mais suite à une grave méningite bactérienne, Yanis devrait être en état végétatif. Et en fait, on l'a hyperstimulé depuis sa naissance avec différentes méthodes de rééducation motrice et cognitive. Et en fait, au fur et à mesure de notre parcours, on s'est rendu compte que les familles ne connaissaient pas les méthodes qu'on avait mis en place pour Yanis. Donc, l'idée était de créer une association pour communiquer sur ces méthodes, informer les familles. Donc, on soutient actuellement une trentaine de familles à peu près. Et il y a un an, un petit peu plus d'un an, on a ouvert du coup la Fabrique à Rêves, donc un lieu d'accueil et de rééducation pour accompagner donc les enfants en situation de handicap et leurs familles.
Et vous donnez beaucoup de temps à l'association ?
C'est un travail à temps plein, hein, être présidente d'association. On ne compte pas ses heures en tant que bénévole. On travaille toute la journée, parfois un peu la nuit, les week-ends. Il n'y a pas de 35 heures ou de... C'est quand on a besoin, quand une famille nous contacte, il faut savoir être disponible. Bon, j'essaye quand même de garder un peu les week-ends hors événement pour la sphère privée. Mais quand on a une famille en détresse, c'est compliqué de dire on est en week-end. L'association, ça prend beaucoup de temps. C'est un engagement permanent.
Je m'appelle Jérôme Touré et je fais partie de l'association Paris Non 45 depuis un peu plus d'un an. J'ai pris connaissance de l'association via un article dans la presse. Et du coup, via cet article de presse, je me suis dit pourquoi pas... aller voir ce que c'est d'une part, et puis voir si je peux m'engager moi et mon conjoint, savoir si ça l'intéressait aussi. Et l'association Parrain 45, du coup, c'est ça parraine des enfants qui sont placés à l'ASE, et donc il y a deux types d'enfants, on va dire. Les enfants qui sont placés parce que leurs parents ne peuvent plus, ou ne sont tout simplement plus là, ou des personnes qu'on appelle MNA, c'est des mineurs non accompagnés. Donc ces enfants-là, ils arrivent principalement d'Afrique pour trouver une vie meilleure, sauf que du coup, entre leur histoire, la traversée, et puis arriver dans un environnement où on ne connaît ni l'administratif, ni les coutumes, et on n'a personne, du coup, ce parrainage, pour les deux types d'enfants, ça leur permet de voir autre chose. Il y a des sorties, il y a un cadre, on va pas dire parental, parce que c'est du parrainage, mais un autre cadre, en fait, que de faire l'école, l'institut, l'école, et le week-end, rester à l'institut. Ça leur permet, de sortir, tout simplement. Et pour les MNA, c'est les aider dans l'administratif s'ils ont besoin, être un soutien moral et juste une présence aussi, tout simplement pour tous ces enfants. Quoi.
Et vous, votre rôle dans cette association, c'est quoi ?
Alors du coup, Romain et moi, on est parents, marraines, un petit garçon, il a 8 ans. Et du coup, nous, en fonction de notre rythme, parce que c'est souvent des personnes qui sont à la retraite ou qui sont en fin de carrière, qui sont dans l'association, nous, c'est vraiment pas notre cas. Et donc, on a fixé un rythme, on le voit une fois par mois. Et du coup, on va le chercher le matin, le samedi. Parfois, il peut rester... jusqu'au dimanche selon ce qu'on prévoit, ou alors on va le chercher à la fin de l'école, on l'emmène au judo parce qu'il fait du judo, mais du coup on l'emmène faire des sorties, on l'emmène au cinéma s'il va au cinéma. C'est un petit garçon qui a son histoire et qu'il faut composer avec, donc il a choisi des Legos, il fait des Legos avec Romain, il vient dans le jardin avec moi. Le chien, c'est un bon vecteur aussi pas d'ouverture de parole, mais au moins de confiance, quoi. Donc, on le ramène après le soir à sa maman, et puis on a fixé un calendrier où on le voit comme ça tous les mois. Moi, à l'origine, ce que je souhaitais, c'était donner d'autres cartes dans les mains de l'enfant, parce que aujourd'hui, il en a certaines qui n'ont pas toujours été très belles avec lui. Et c'était, c'était de lui apporter tout à fait autre chose, un autre cadre qui voit qu'il y a d'autres choses qui existent, que les adultes peuvent être bienveillants et pas forcément défaillants comme ils peuvent l'être. Je me suis aussi engagée dans l'association pour la faire, grandir. Parce que le cœur associatif que j'ai, il est plein d'expériences dans d'autres assos. Donc, c'est d'apporter et ma contribution en tant que juriste en droit du travail, le regard extérieur aussi. Et puis, ben, j'ai déjà été trésorière, etc. Donc, c'est d'apporter un peu une structure aussi à l'association quand elle a besoin. Parce que j'ai pas de rôle particulier, mais si les membres s'en vont, il n'y a plus d'association. Et s'il n'y a plus d'association, il n'y a plus tout ça pour les enfants. Et ça sera un crève-cœur, je pense.
Vous avez la fibre association et engagement et bénévolat.
Ouais, toujours vers les autres. C'est vrai que j'aimerais être davantage sur tout ce qui est environnement, mais je le fais d'une autre façon. Parce qu'il y a plein de façons d'être engagé finalement, que ce soit dans des associations ou à titre individuel. Il y a plein de façons de promouvoir toutes les choses qu'on veut faire évoluer dans la société. Mais oui, c'est toujours tourné vers l'humain. Parce que le reste, je peux le faire à domicile et d'une autre manière. Alors que l'humain, il faut forcément aller vers l'autre. Parce que donner de l'argent, ça fait avancer certaines choses, mais donner de son temps... C'est plus difficile et c'est plus engageant, je trouve.
Pascal Daugé-Robert, j'ai commencé à faire du judo à l'âge de 10 ans, ici, à Amilly, dans une structure club dans les années 70. Et puis depuis, après, je n'ai pas arrêté. J'ai fait ma carrière jusque dans les années 87. Donc j'étais en équipe de France en 79. Alors le parcours sportif, je suis toujours restée licenciée ici. Mais après, je me suis entraînée sur Paris, parce que je faisais mes études sur Paris. Et je me suis entraînée à l'INSEP. Après, à la fin de ma carrière, je suis restée à l'INSEP. J'ai fait un brevet d'état judo pour avoir un BE2. Ça, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et j'étais entraîneur national pendant une Olympiade auprès des jeunes. Donc les jeunes de 16 à 18 ans. Donc là c'est pareil, il n'y avait pas eu de poste créé pour un entraîneur féminin auprès des filles. Après j'ai arrêté ma carrière d'athlète donc en 87, ma carrière d'entraîneur national en 91, 12, quelque chose comme ça. Et je suis revenue à ma profession puisque j'ai été professeure de PS. Donc je suis en retraite depuis un an et demi. Et je suis toujours restée impliquée dans la structure club. J'ai été membre, après j'ai été secrétaire, trésorière, et maintenant je suis présidente depuis 8 ans, quelque chose comme ça.
Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'être engagée au sein de la structure ici ?
Alors, c'est toujours dans le principe de faire évoluer les choses. Une structure club, alors j'ai toujours été bénévole, bien évidemment, hein, jamais salariée dans une structure. Quand on a reçu quelque chose à un moment donné par des gens qui vous ont entraîné, conduit vers le haut niveau, qui vous ont fait découvrir, je pense que quelque part, on a envie de redonner. Déjà. Ça, c'est dans un premier temps. Ça, c'est ce que moi, je ressens et je conçois comme ça. Après, quand on est entraîneur et quand on est dirigeant, toujours en tant que bénévole, moi, j'ai toujours eu envie de faire évoluer les choses, toujours envie de partager, de rencontrer des gens, parce que on est amené à rencontrer tout type de personnes. On a un côté social aussi. Hein. On rencontre des gens plus âgés, des gens plus jeunes, des gens un peu perdus, des gens qui ont envie de donner de leur temps, de leur savoir aussi, de leurs compétences. Donc, je trouve que c'est enrichissant. Et rester dans une structure... où on rencontre du monde, donc c'est un lien social hyper fort, et ça permet de rester très jeune. Voilà. Donc je pense que c'est surtout ça, puis envie de donner, on ne se pose pas la question, et surtout on ne se pose pas la question de dire je donne, mais qu'est-ce que je vais avoir en retour ? Voilà, c'est un enrichissement personnel. Peut-être un peu égoïste, mais non, parce qu'on donne quand même beaucoup de notre temps. Voilà, on passe quand même des heures et des heures pour la structure, pour les autres, en montant des projets. Donc oui, envie de faire plaisir aux autres, quelque part.
Bon, c'est René Vagneron. Alors, j'ai toujours été intéressée par le bénévolat parce que je n'ai pas travaillé autrement. Donc, il faut bien que je me dépense dans quelque chose que j'aime faire aussi, hein, pour donner le meilleur de moi-même. Et j'ai eu une rencontre qui m'a beaucoup aidée, c'est Émilie. Et elle m'a parlé de la maison de l'enfance. Et là, j'ai senti qu'il y avait un besoin d'aide. Et ça a été pour moi, pas une révélation, mais j'ai compris que là, je pouvais faire quelque chose. Et finalement, je suis partie dans l'aide aux devoirs, deux fois par semaine. Et ben, ça, c'est fabuleux. En plus, c'est avec des enfants qui sont dans des situations... pas très facile. Des petits, j'ai pris les 5-10 ans. Donc, c'est vraiment très chouchou. Je me suis retrouvée la mamie de service, en quelque sorte. Je suis attendue maintenant, parce que ça va être ma deuxième année. Ils me connaissent. Et donc, quand est-ce que tu viens, René, etc. Donc ça, c'est réconfortant. Ça veut dire que ça marche.
Donc, en fait, en vous engageant, en étant bénévole, vous avez appris plein de choses. Qu'est-ce que vous retenez que vous avez appris, qui vous a apporté le plus ?
Je pense que ce qui a apporté le plus, dans tous les cas de figure, il faut être à l'écoute. Je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Être à l'écoute, ne porter aucun jugement. Et se dire que, voilà, si moi j'étais en face, comment je réagirais, quoi ? Il y a des moments où on aurait extrêmement besoin d'aide.
Je m'appelle Roxane, j'ai 13 ans et je suis engagée pour le climat parce que je m'inquiète pour les générations futures qui, enfin, elles ne pourront pas vivre dans un monde où c'est le climat, il change tout le temps, on ne peut pas être fixé. Là, par exemple, il fait très beau, beaucoup trop beau pour la saison. Dans la cour, il y a des arbres qui sont en fleurs. C'est pas normal. À la maison, on mange moins de viande, on la remplace par des œufs. On fait attention à notre consommation d'électricité. Au collège, du coup, aussi, on a un potager. Il y a les élèves du club nature qui ont mis en place un potager qui est assez bien. Dedans, il y a des poules, deux lapins, une tortue de Floride, il y a quelques poissons, il y a des grenouilles.
Toi, tu fais partie du club nature.
Oui, c'est ça. On a mis aussi en place un compost pour les restes à la cantine de fruits et de légumes qui n'ont pas été mangés, parce qu'il y en a beaucoup. Tous les vêtements, tous les matériels de jardinage qu'on peut acheter en occasion, on le fait.
Et alors donc, tu as été aussi éco-déléguée ?
Oui.
Ça consistait en quoi ?
À sensibiliser mes amis. Je leur parle beaucoup de tout ça. Des fois, quand elles gâchent la cantine, je leur dis que c'est pas très bien. Et c'est moi qui les ai poussés à venir au Club Nature. J'avais proposé à la cantine qu'il y ait un bac pour les fruits non consommés et les fruits consommés. Parce que du coup, des fois, on mange pas les fruits et on les jette quand même dans le bac qui va finir à la poubelle. Je trouvais que ça servait à rien et que les fruits, j'allais mieux les mettre dans des bacs séparés pour les donner aux animaux ou au compost. Et du coup, ça a été mis en place.
Et ça t'apporte quoi d'investir pour le climat ?
Mais je trouve que du coup, je sers un petit peu plus à quelque chose que si je faisais rien et que j'attendais comme ça à rien faire alors qu'il y a des choses graves qui se passent pour les générations d'après moi.
Je m'appelle Sabine Reynaud, je suis kinésithérapeute à l'hôpital au CHU maintenant d'Orléans. J'ai fait tous les services de l'établissement et je suis arrivée dans le service de réanimation et de neurochirurgie où maintenant je suis depuis plusieurs années et on peut dire que j'ai une certaine expérience dans ces services-là. Et en 2009, le chef de service, qui est donc neurochirurgien, revenait d'une mission en Mongolie où il avait fait une expertise avec un bactériologiste et un radiologue et il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait opérer des patients, qu'il y avait des progrès à faire, mais surtout qu'une fois que les patients étaient opérés, il n'y avait plus personne. Ils étaient dans des lits et ils ne pouvaient pas les sortir de ce lit parce que pas de rééducation. Il n'y avait pas du tout de kiné en Mongolie. Ça n'existait pas. Il y avait des infirmières de rééducation qui faisaient plutôt massage, confort, mais aucun kiné. Donc quand il est revenu, il m'a demandé si ça m'intéresserait de partir là-bas. Donc j'ai vraiment bien réfléchi au projet, savoir si j'étais capable. En fait, on ne sait pas trop. Je suis montée dans l'avion très, très stressée. Et puis, quand je suis arrivée à l'hôpital, de toute façon, on ne peut pas imaginer, quand on arrive dans un hôpital comme ça, à l'autre bout du monde, ce qu'on peut trouver. Et effectivement, et je me suis dit qu'il y avait tout à faire, quoi. Au niveau de la rééducation, qu'il y avait tellement de choses. À partir de 2009, on a une coopération interhospitalière avec l'hôpital traumatologique d'Oulan-Bator et le CHU d'Orléans. Et dans les quatre catégories, donc la radiologie, la bactériologie, la radiologie et la kinésithérapie. Et à partir de ce moment-là, donc la coopération pour nous, c'était on va là-bas faire une mission d'expertise, voir ce qu'on peut apporter. On n'amène pas de matériel, rien, c'est pas d'humanitaire. mais on apporte nos connaissances, on échange avec eux, et surtout, on voit sur place les personnes motivées qui pourraient venir voir en France ce qu'on fait. Et 15 jours par an aussi, on sélectionne entre guillemets 4 personnes, nos collègues, nos homologues, enfin radiologues dans les 4 disciplines, et ils viennent passer 12-15 jours pareil en France. Donc en 2009, il n'y avait pas de kiné. Et en 2010, il y avait une école de kiné qui était en train de se faire. La première kiné est sortie. Donc il y avait une kiné à l'hôpital. Et je l'ai suivie en fait. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, j'ai une équipe toute jeune. Alors moi, je dis ça, je suis une vieille kiné. Mais où ils ont tout à apprendre. Et je l'ai suivie pour voir ce qu'elle faisait. Et après, moi, j'ai fait part plutôt de mon expérience, de ce qu'on faisait en France. Alors, au niveau du matériel, ils n'avaient pas grand-chose au départ. Il a fallu qu'on gère aussi, ben, justement, avec la région, avec le bactériologiste. Quand ils viennent, on essaye d'avoir les mêmes matériaux, les mêmes arthromoteurs, les mêmes matériels en bactériologie, pour qu'ils puissent bien apprendre sur la même chose. L'avantage, moi, c'est qu'on travaille surtout avec nos mains. Donc, tout le monde l'a et c'est pas cher. Donc, et sur place, donc j'ai suivi une, puis là maintenant, pratiquement maintenant une bonne dizaine. Ils sont avides d'apprendre.
Et qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette coopération ?
Alors énormément, c'est sûr, mais il y a tellement de points différents. Alors déjà, humainement, de rencontrer une autre culture, une autre civilisation. À chaque fois que je reviens, je me dis, oh là là, mais vraiment, qu'est-ce qu'on est heureux ici ? Et pourtant, quand je rentre, au bout de deux jours, j'ai repris la routine un peu. On est un petit peu taciturne quand même en France. Il y a quand même beaucoup d'antidépresseurs. Et en Mongolie, ils n'ont rien. Ils ont toujours le sourire. Ils prennent le temps de vivre. Et c'est vraiment de ce point de vue-là, c'est ressourçant quelque part. Et il y a aussi humainement au niveau professionnel, parce qu'on se rend compte que au fur et à mesure des années, on a développé quelque chose là-bas. Que maintenant on n'arrive presque plus à avoir à Orléans, c'est-à-dire de travail en interdisciplinarité. À Orléans, on a tendance maintenant à chacun, comme c'est très grand, je travaille chacun les kinés d'un côté, les neurochirs. Et à Oulan-Bator, dans l'hôpital traumatologique, on s'est aperçu que maintenant ils travaillent ensemble. Ils sont venus en France ensemble, ils se reconnaissent en tant que tels, on est passé en France, et le neurochir part en week-end avec le kiné. Ça fait que, forcément, le lundi, quand il y a un patient qui va pas bien, il appelle. Voilà, et ça se fait aussi au niveau de la bactériologie, de la radiologie. Donc ça, humainement, c'est très important. Et professionnellement, on voit énormément de pathologies qu'on ne voit pas, qu'on voit, mais beaucoup moins en France. Par exemple, au niveau des tétraplégies. Moi, ici, je vois un tétraplégique, heureusement, tous les, un trimestre, tous les semestres. Bon, c'est vraiment assez exceptionnel, heureusement. Là-bas, quand j'y vais, j'en ai pratiquement un tous les jours, tous les deux jours. J'apprends aussi la différence de culture. Certains patients, là-bas, réagissent... C'est la même pathologie, c'est le même corps, voilà, mais ils réagissent pas du tout pareil. Chez nous, un paraplégique pourra pas marcher. Ben là-bas, de toute façon, s'il marche pas, il pourra pas... Alors, je m'entends bien, un paraplégique assez bas. J'ai un collègue qui est maintenant médecin rééducateur, qui est en fauteuil roulant, et il se met debout pour pouvoir rééduquer les autres patients. Ici, c'est pas possible, quoi. Parce que on n'a pas... cette volonté, c'est peut-être un peu dur. C'est qu'on a tellement de facilité que ça vaut pas le coup d'essayer de se mettre debout. Là, ce patient, il se met des attelles, il prend des cannes, et puis il essaye de monter. Une volonté qui est différente de la nôtre. Donc j'ai vu que là-bas, des choses étaient possibles, et ça m'a donné encore plus de motivation quand je suis rentrée. Voilà, donc non, j'ai vraiment l'impression que d'avoir servi à quelque chose, et j'espère encore pouvoir...
Je m'appelle Marie-Françoise Sevestre. Je suis née le 14 juillet 1945 à Tivernon en 1991. Donc j'étais entrée en trésorerie. Après, le bureau s'est refait. On m'a demandé au bout de repasser en secrétaire.
Il s'agit de quelle association ?
Association Ensemble pour la vie, courir pour Curie. Avec qui on travaille, avec l'Institut Curie. Voilà. Donc, toutes nos recettes qu'on fait de tombola, les randonnées, des concerts, toutes nos recettes en fin d'année sont envoyées à l'Institut Curie. Nous gardons rien du tout. C'est pour aider les chercheurs de l'Institut Curie. Cette année, on a envoyé 6 800 € à Curie. Ça va faire 19 ans cette année que je suis présidente.
Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'être présidente de cette association?
C'est pas pour moi la chose, la plus belle chose que je peux apporter. Et mes petites communes ont besoin de choses vivantes dans ces, sinon il n'y a plus rien. Voilà. D'accord. Donc, quand ils ont un concert dans, à droite, à gauche, tout ça, ils sont très heureux. Ça fait revivre cette commune. Et ça fait vivre les gens. Ils repartent satisfaits.
Donc, vous êtes heureuse d'être présidente de cette association?
Oui. Parce que je leur demande, j'ai écouté, c'est bien gentil. J'ai quand même 78 ans, c'est un. J'y voudrais bien qu'on prenne la... Ah non, non, tu fais ça bien, tu continues.
Suzanne Buron, l'engagement dès le plus jeune âge.
En fait, vous avez eu une vie d'engagement depuis vos 20 ans, en fait, même avant, puisque vous parliez de...
Oui, puisque j'étais cheftaine de louveteaux. Oui. J'avais 15 ans. Je devais être la plus jeune cheftaine de France, d'ailleurs.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet engagement tout au long de votre vie, puisque vous avez continué, donc c'est quelque part, ça vous a beaucoup plu.
Qu'est-ce qui m'a plu, c'était justement... Alors, depuis la mort de mon mari, ça fait 16-17 ans, c'est surtout le fait d'avoir à donner du sens à ma vie. Hein. C'est un besoin d'aller vers les autres, le besoin de m'occuper des autres. Donc j'ai eu la Légion d'honneur, hein, parce que la Légion d'honneur, vous ne la demandez pas. On vous propose.
Mais ça vous a fait quoi quand on vous l'a remise?
Ça m'a fait quoi? Alors, sur le journal officiel, je l'ai à titre associatif, 42 ans de vie associative à ce moment-là, et je l'avais aussi pour des raisons syndicales. D'ailleurs, je l'ai dans la rubrique sociale, ce qui est assez rare. Et si vous voulez, j'étais davantage fière, entre guillemets, que c'est pas mon style, d'avoir la Légion d'honneur pour raison, pour ces motifs-là, que si j'avais été magistrat au tribunal ou directeur de quoi que ce soit, etc. Ou là, vous l'avez beaucoup plus pour des raisons professionnelles. Voilà, donc si vous voulez, bon, j'allais dire, tout le monde était relativement fier, entre guillemets, de que ce soit pour cette raison-là.
Loiretaine engagée, l'exposition 2024 du département du Loiret.